Voilà, on se retrouve pour une nouvelle édition des Carnets de Comaguerre, émission hebdomadaire sur l'actualité internationale, en vigueur sur les ondes de Radio Galère depuis, allez, une vingtaine d'années, c'est bien à peu près ça, et toujours avec nos complices, Roselyne, bonjour.
Bonjour.
Habib, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, et toujours Sidi qui est là fidèlement.
Bonjour.
Depuis, presque aussi, depuis bonjour. 20 ans aussi. Peut-être un peu plus.
Il ne faut pas trop le dire.
Ah, mais si, c'est tout à ton honneur. Tu es le personnel le plus stable de Radio Galère. Tu es comme un roc sur Radio. C'est le roc sur lequel le phare de Radio Galère essaye de briller. Voilà. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'un sujet dont plus personne ne parle. Vous vous souvenez tous, on en a parlé abondamment, qu'il y a eu des élections aux États-Unis. Bon, mais chercher des informations sur les élections aux États-Unis, il n'y a plus rien. Alors, comment ça se fait? Ça se fait qu'elles ne sont pas finies. Comment elles ne sont pas finies? Alors, vous savez que je vous avais raconté, il y avait eu toute une partie de vote par correspondance qui avait commencé dès le mois d'octobre, depuis longtemps, puis ça s'était donc concrétisé jusqu'à cet avant-dernier dimanche. Et on pouvait penser que ça y était, que les dés étaient jetés, comme on dit en latin. Aléa, jacta est. Eh bien, pas du tout. C'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on n'a pas encore tous les résultats. Ah, parce que c'est très, très lourd, les États-Unis, le mode de scrutin. Il est très, j'allais dire, c'est pas un mot qu'ils utilisent là-bas, très décentralisé, c'est-à-dire que les votes sont organisés par État. Dans certains États, ils sont même organisés par comté, et il faut ensuite rassembler les résultats de tous les comtés pour arriver au résultat de l'État. Enfin, c'est une mécanique extraordinairement lourde dont on n'a pas bien conscience. Alors, eux le savent, ils s'en vantent pas, et ils parlent dans les grands journaux, il va y avoir ceci, et Trump va gagner, les républicains ceci, les républicains cela. En fait, c'est d'une extrême complexité, et surtout, les résultats tels qu'on peut les trouver aujourd'hui en cherchant, mais j'ai quand même un peu cherché avant d'introduire le sujet, ne sont pas définitifs. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, à la date d'hier, pour être extrêmement précis, les républicains étaient majoritaires dans le nombre d'élus, à la Chambre des représentants. Ils avaient 217 élus confirmés déjà. Il n'en manquait plus qu'un. 218 pour qu'il soit majoritaire à la Chambre des représentants. Ce qui veut dire, comme il reste encore une dizaine d'États ou de morceaux d'États à dépouiller, il y a toutes les chances pour que ce soir ou demain, on confirme qu'ils ont la majorité à la Chambre des représentants. Ce qui est d'une très très grande importance. C'est la moitié, c'est la deuxième partie du Congrès. Mais souvenez-vous, quand on a parlé de la visite de l'ineffable Nancy Pelosi à Taïwan, où elle était allée prendre un bain de soleil, tout le monde le savait, on a dit qu'elle était le troisième personnage de l'État des États-Unis. Et c'est vrai dans le protocole. Eh bien, je ne prends pas trop de risques en vous disant que probablement demain ou après-demain, le troisième personnage des États-Unis sera un républicain. Ou une républicaine. Bon. Ça, celui a un siège près, les autres ont 5-6 sièges de retard, ils ne peuvent pas rattraper. Bon, ça on y est presque. Sur le Sénat, on va attendre mi-décembre. Alors comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, à l'heure où je vous parle, tout a été presque dépouillé, donc il y a 50 élus démocrates, comme dans la Chambre, dans le Sénat sortant, et il y a pour l'instant 49 élus républicains. Donc si le siège qui manque vient aux républicains, on sera à 50-50, exactement dans la situation qui précédait les élections partielles. Bon. Et vous savez que dans ce cas-là, on s'en était expliqué, c'est la voix de la vice-présidente, donc Kamala Harris, qui est de droit présidente du Sénat, donc elle est le deuxième personnage de l'État, qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Bon, évidemment, ça aurait été du côté des démocrates. Mais le siège qui manque, alors qu'est-ce qui est arrivé? Le siège qui s'est arrivé, la situation suivante, c'est que dans l'État de Géorgie, où ça s'est passé, il y a eu un petit candidat qui a pris suffisamment de voix pour qu'aucun des deux candidats, suivant la loi de l'État, n'ait les 50% nécessaires. Donc ils ont eu tous les deux 48 ou 49. Donc il y a un républicain et un démocrate. Le démocrate est un pasteur afro-américain qui était le premier depuis longtemps élu démocrate dans la Géorgie. C'est déjà un pays, une république du Sud, on le sait. Bon. Mais il n'est pas sûr qu'il gagne parce que les républicains ont trouvé à mettre face, alors c'est presque drôle, c'est presque une bande dessinée future, j'imagine, face au pasteur démocrate afro-américain, il y a un joueur de football américain, costaud, souriant, sympathique, une bonne tête, une espèce de géant du football américain qui porte les couleurs rouges des républicains. Et vu d'aujourd'hui, il semble bien que le démocrate risque de perdre son siège. Alors l'élection aura lieu le 6, c'est une élection partielle. Et on attendra le dépouillement de la Géorgie, donc entre le 6 et le 15 ou le 20 décembre, pour savoir comment est la majorité sénatoriale. Voilà, ça, tout ça, c'est très, très compliqué aux États-Unis. Alors, le siège démocrate qui avait été pris par M. Warnock, le pasteur en question, l'avait été à la suite d'une élection partielle. Et c'était une première, parce que c'était la première fois qu'en Géorgie, un des États du Sud, un des États de l'esclavage, avait élu un Afro-Américain. Bon. Il se trouve que maintenant, il y a deux Afro-Américains face à face, hein, avec des profils professionnels différents. Le pasteur d'un côté, on est très dans la ligne démocrate, et puis le joueur de football américain, hein, un beau gaillard, très souriant, ben, sympathique d'allure, hein, bon, il est républicain, voilà, qui aussi bien va gagner le siège et va ramener la Géorgie dans le camp des républicains où elle a presque toujours été. Bon. Ça, on en reparlera ben, dans un mois. Hein, voilà. Et on peut dire que quand on arrivera au 1er janvier, les élections américaines seront terminées, hein, et qu'on y verra à peu près clair. Ceci étant, il y a des gens qui doivent y voir quand même assez clair, en particulier le président Biden, parce qu'il doit savoir qu'au niveau de la Chambre des représentants, c'est perdu. Hein. En gros, il n'y avait pas beaucoup d'écart. À l'origine, il y avait 6 ou 7 sièges d'écart en faveur des démocrates, et là, ça s'est renversé en faveur des républicains. Bon, alors ça ne fait pas de gros mouvements électoraux, mais ça s'est renversé, ce qui veut dire effectivement que le président de la Chambre des représentants sera très, très probablement un républicain. Et ce qui veut dire que M. Biden ne pourra pas lui donner des ordres de voter ceci ou cela. L'autre, il va discuter, il va dire « ça je veux pas », etc. Donc la chose se complique pour M. Biden et pour sa politique, là où on la voit à peu près clairement. Ça va certainement lui poser problème, par exemple, par rapport au crédit militaire qui n'arrête pas de tomber dans l'escarcelle de M. Zelensky. Mmh. Alors déjà, il y a certains élus républicains qui ont fait savoir que ça faisait beaucoup et qu'ils ont pu savoir aussi ce qui se met à circuler dans les réseaux d'information, qu'une partie des armements qui arrivent en Ukraine pour M. Zelensky et son équipe s'enfuit. Il y en a un peu partout, ça transite, on en revend. Enfin, il y a aussi de drôles de gens qui sont dans cette guerre côté ukrainien. Donc aussi bien, ils reçoivent des armes et puis ils partent avec et ils font des affaires avec. On connaît ça dans les milieux du djihadisme, le trafic d'armes, etc. Bon, on en est là. Alors M. Biden doit sentir quand même qu'il y a une difficulté pour la suite de son mandat. Alors ça va peut-être le rendre éloquent, je ne sais pas. Mais j'en suis pas sûr du tout, du tout. Et le premier changement d'attitude notable, parce que pour moi, ça provient de là, c'est-à-dire que son affaiblissement intérieur, qui est réel, bien que, alors, vous savez que la campagne, quand on vous a parlé abondamment des élections aux États-Unis, on vous a dit qu'on avait très, très peur d'une espèce de vague rouge, donc une vague trumpiste, etc., qui allait complètement ensevelir les démocrates. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu un petit mouvement qui a fait bouger donc la Chambre des représentants. Il n'y a pas eu... Alors, les pro-démocrates, parce que ce qui est intéressant à observer, c'est que nos presses occidentales, françaises, britanniques et tout, roulaient pour les démocrates, c'était tout à fait clair. On dit « Oh là là, pourvu que Trump n'ait pas la majorité hein. ». Mm-hmm. Bon, en fait, ben, il va avoir quand même la Chambre des représentants, et au Sénat, ça sera peut-être jeu blanc comme dans la mandature précédente. On verra. Mais donc, on avait dramatisé le scrutin, en prenant position, enfin implicitement en faveur des démocrates, puisqu'on ne pensait qu'on ne parlait que de l'épouvantable et de l'épouvantail plutôt Trump. Bon, ben, là, c'est pas un épouvantail. Les républicains ont un peu gagné. Les nouveaux élus républicains ne sont pas tous des Trumpistes, d'ailleurs. Il y en a, mais il y en a qui ne le sont pas. Ou il y en a qui avaient des positions électorales solides là où ils étaient, qui ont continué à les défendre. Bon, donc il y a une situation politique nouvelle, mais il n'y a pas un bouleversement. Alors, qui est deux camps, rouge et bleu, ben, c'est organisé comme ça depuis des décennies, des siècles. Bon, ça ne change pas, mais la balance a bougé. Et le signe que j'y ai vu, alors peut-être à tort, c'est que M. Biden, vous le savez, est à Bali. Alors, non pas pour prendre un bain de soleil, hein, mais pour participer au sommet du G20, et surtout, puisque c'est là-dessus que les médias lancent le projecteur, pour rencontrer, ce qui est fait d'ores et déjà, le président chinois qui, lui, est là. Et alors, en se fiant, moi, je travaillais sur la base du communiqué de la Maison-Blanche qui a été émis après cet entretien, qui a eu lieu, donc, qui a eu lieu hier, je pense, avant l'ouverture, parce que l'ouverture du G20, c'était aujourd'hui, c'est le 15 et le 16, le G20. C'est que M. Biden a posé les relations entre la Chine et les États-Unis sur la base d'une concurrence ferme mais loyale. C'est-à-dire, on ne parle pas du tout de militaire. On ne parle pas du tout d'affrontement armé. On dit on est en concurrence. Vous êtes très costaud économiquement. Vous avez des entreprises fortes. Nous aussi. On va, la bataille de la concurrence, la competition, comme ils disent en américain, elle va avoir lieu. C'est-à-dire, vous voyez qu'on est à un niveau de discours qui n'est pas du tout un discours agressif. C'est dire, c'est la règle, c'est la concurrence internationale. Les pays s'affrontent, etc. Oui, non, mais le meilleur gagnera. Mais on voit là une inflexion dans le langage des États-Unis, hein, qui est très, très nette. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas en disant « je vais vous casser la figure », parce que ça, c'est un mot qu'on réserve aux militaires et aux chefs d'état-major. Mais il dit « ben voilà, on est en concurrence », et la Chine ne dit pas autre chose. Hein, mais voilà, la bataille va avoir lieu sur les termes de la concurrence.
De toute façon, ils ont envoyé un bateau de guerre de 330 mètres.
Oui, de long. Parle dans le...
Ouais, ouais, 330 mètres de long, hein, comme la Tour Eiffel. Oui. Même plus grand
que... à Bali, ouais. Au large, oui, pour soutenir le président. Mais vous voyez, donc, changement de ton, on baisse d'un cran dans la violence verbale, encore que la violence verbale, chez Biden, elle n'est pas évidente, mais enfin, il peut avoir des propos violents sans qu'il y ait de violence verbale, parce qu'on l'entend. On l'entend à peine. Mais ça, je le note parce qu'il doit sentir que les lendemains, ces lendemains politiques à Washington vont être un peu plus compliqués que ce qu'il imaginait. Mm-hmm. Et que les républicains, même si les républicains ne sont pas des pacifistes, il ne faut avoir aucune illusion là-dessus, ne lui feront pas de cadeau quand ils vont lui dire « mais là, on dépense beaucoup d'argent pour Zelensky, à quoi ça sert, etc. Bon. » Ça, c'est très... Alors, je ne m'arrête pas plus sur le communiqué de la Maison-Blanche, ouais, que je pense que, fidèle, puisqu'il dit voilà ce qui s'est dit, hein, entre les deux personnages. C'est eux qui authentifient. Bon. C'est quand même un changement de discours. Enfin, on pouvait attendre, dans d'autres cercles des États-Unis, un discours beaucoup plus violent. Hein, parce que je rappelle quand même que la Chine est considérée dans les documents stratégiques des États-Unis, rédigés par les militaires, hein, et acceptés par les politiques, comme l'ennemi définitif et le plus grand. Hein. Mm-hmm. Mais là, on dit, ben, effectivement, il y a une espèce de reconnaissance du fait que la bataille va être lourde et difficile. Hein. Quand on aborde sur ce plan, on est en compétition, on ne dit pas « demain, vous aurez une bombe atomique sur Pékin ». C'est un autre langage. Alors, d'autres sont peut-être capables de dire en aparté ou dans les couloirs du Pentagone « ils auront une bombe atomique », mais je pense qu'ils ne le disent pas non plus, d'ailleurs. Ils le disent d'autant moins que je rappelle, et j'insiste sans arrêt pour le dire à qui veut entendre, que le 3 janvier 2022, 5 chefs d'État ont signé un papier dans lequel ils disent « la guerre nucléaire est impossible parce qu'on en meurt tous ». Hein, bon. Et dans les 5 chefs d'État, il y en avait les deux qui se sont parlé à Bali, il y avait Poutine, il y avait Macron et il y avait Boris Johnson. Bon, ça, ils l'ont signé, et ils ne l'ont pas signé sous la pression, on ne les a pas enfermés dans une salle en disant « maintenant, vous sortirez de là que quand vous aurez... » Ça a dû être l'objet d'une longue préparation sur les instances de la Russie en particulier, hein, et on a abouti à ce document dans lequel tout le monde, enfin, ces 5 chefs d'État sont liés, et ils le savent, et ils savent pourquoi ils sont liés, parce qu'ils disent de toute façon, celui qui appuie sur le bouton, il meurt aussi. Hein. C'est ça le constat qu'ils ont fait, vu la quantité des armes nucléaires dont ils disposent, alors les États-Unis et la Russie, beaucoup plus que les autres, mais les autres en ont quand même suffisamment, vu la capacité des différents vecteurs à acheminer une partie de ces bombes atomiques chez l'adversaire, il ne reste presque rien, ou au moins plus aucun centre de commandement, plus aucune capitale, etc. Bon. et puis un nuage radioactif sur la totalité de la planète. Donc ils l'ont reconnu, ça n'est plus possible. Donc après, là, il y a une analyse consistant à dire finalement tout ce bruit qui est fait médiatiquement sur la bombe atomique dans la guerre d'Ukraine et tout, c'est destiné à tromper l'opinion, à faire parler de ce qui n'a pas d'intérêt pour les personnes les plus concernées. Ce dossier-là est fermé, c'est classé, on n'en parle plus. Alors de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Ben, c'est très simple. Ça se passe à Ankara, ça a eu lieu hier et avant-hier. On a organisé une rencontre entre le directeur de la CIA et son homologue russe pour parler de la guerre en Ukraine. Et là, on parle sérieusement. Alors ça se passe donc au niveau des services de renseignement, ceux qui savent exactement ce qui se passe, où et comment. Si les États-Unis ont envoyé le directeur général de la CIA à Ankara pour discuter avec le chef des services de renseignement russes, c'est qu'il veut discuter de quelque chose. Il n'y va pas pour faire des ronds de jambes et pas pour faire une conférence de presse en sortant. Il veut parler sérieusement des affaires. Sérieusement des affaires, ça veut dire on continue comment, on continue, vous avez l'intention d'aller où, etc. Nous savons que ceci, l'autre lui répond, mais nous savons que cela, etc. De toute façon, ça confirme que la guerre d'Ukraine est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Bon. Alors les États-Unis font comme s'ils y étaient pour rien, ils y sont pour beaucoup, puisqu'ils n'arrêtent pas, donc, à longueur de vote de la Chambre des représentants et du Congrès, d'envoyer de l'argent et des armes. Mais là, le fait est acquis, c'est-à-dire cette visite, cette rencontre avec le chef des renseignements, des services de renseignement russes, atteste que la guerre se joue bien entre ces deux-là. Et que... j'allais dire, le pauvre Zelensky, je ne le plains pas du tout, parce qu'il a voulu faire le métier, le sale métier qu'il fait, il doit commencer à se rendre compte qu'il ne maîtrise pas la situation. Alors il y va quand même, parce qu'il a encore envoyé une vidéo, je ne sais même pas s'il y était, je n'ai pas vérifié s'il était à Bali. Il a envoyé une vidéo dans laquelle il annonce que la négociation, elle est claire, où on lui rend toute l'Ukraine, où il ne négocie pas. Bon, alors ça, c'est la position maximaliste. Il oublie simplement, je rappelle que les Ukrainiens qui sont partis en Russie, donc les républicains, les Ukrainiens des quatre régions qui ont voté pour le rattachement, outre les habitants de la Crimée, l'ont fait parce que le gouvernement de M. Zelensky les bombardait tous les jours. Et donc si Zelensky leur dit « revenez en Ukraine », c'est pour les liquider les uns après les autres, puisqu'ils ont déjà vu que ça avait commencé la liquidation. Donc, enfin, il perd son temps, mais il fait croire à l'opinion ukrainienne, si elle le suit encore, ou à l'opinion internationale des anti-russes, disons qu'il a des revendications fermes. Je pense que ça ne peut pas aller bien loin, d'autant plus qu'effectivement les États-Unis doivent comprendre que les États-Unis sont en train de négocier et que de toute façon, sans eux, il ne peut rien faire. Et que le jour où ils arrêtent de lui envoyer et de l'argent et des obus, ils s'arrêtent le lendemain. Alors, au niveau des obus, d'ailleurs, une anecdote cocasse, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient envoyer 100 000 obus de 155 mm, je vous donne pour un certain type de canon qui est utilisé, qui existe dans l'armée ukrainienne. Mais en gros, 100 000 obus, c'est ce que tire l'armée russe en une semaine. Donc ils peuvent en envoyer tout autant qu'ils en veulent. La puissance de la force de frappe d'artillerie russe est considérable. Et d'ailleurs, ils ne travaillent pratiquement que comme ça. C'est-à-dire l'armée russe sur le sol ukrainien, et maintenant sur le sol des nouvelles provinces russes, ne travaille pas au contact de l'armée ukrainienne. La meilleure preuve étant fournie par l'épisode de Kherson sur lequel je vais m'arrêter. Parce que l'épisode Kherson, donc c'est une des la province de Kherson est une des quatre provinces qui ont voté pour le rattachement à la Russie, rattachement qui a été entériné par le Parlement russe et par la Chambre constitutionnelle, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il y a encore des troupes ukrainiennes dans cette province-là. Donc la population a voté massivement pour le rattachement à la Russie, mais l'armée ukrainienne est encore en partie sur le sol de cette province, pas sur la totalité, le reste est occupé par l'armée russe. Bon. Ce qui s'est passé, et ce qu'on ne redit pas, on n'a pas redit ces derniers jours, c'est qu'il y a un mois, l'armée russe avait demandé à la population de Kherson, après qu'elle ait voté pour son rattachement à la Russie, de quitter Kherson en disant « Kherson, c'est une zone qui est difficile à tenir, on craint une opération extrêmement dangereuse qui consisterait à dynamiter un barrage sur le Dniepr qui noierait la ville en gros. » Donc on craint une catastrophe parce qu'ils pensent que l'équipe de Zelensky est capable d'à peu près tout. Et donc, il y a un mois, vous pouvez retrouver, ça se trouve dans les dépêches et tout, l'armée russe avait dit aux habitants de Kherson qui habitent dans cette ville, le reste de la province était occupée par l'armée russe, repliez-vous. Repliez-vous parce qu'on a peur qu'il vous arrive quelque chose. Ce qui s'est passé, donc la population s'est repliée, et ensuite, après que la population se soit repliée, c'est l'armée russe elle-même qui s'est repliée. Bon, donc c'était
mais
clair.
Il ne faut pas oublier que c'est au-delà du fleuve.
Du fleuve, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a le fleuve qui traverse cette province. Voilà.
Et ils sont complètement de l'autre côté.
Voilà.
Ils sont là-bas, de toute façon.
Voilà, exactement. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc la grande victoire militaire de l'armée ukrainienne, c'est de toute façon, l'armée russe n'a pas combattu, c'est
non,
tout.
Vraiment.
L'armée russe n'a pas combattu.
Il n'y a pas eu de combat.
Les civils donc, de Kherson sont partis dans la zone russe, contrôlés par l'armée russe, et donc ils n'ont pas, leur vie n'est pas menacée. Et donc ça a permis à M. Zelensky de faire hier ou avant-hier, je crois, une venue très télévisuelle sur le site en disant « Oh là là, vous saviez ce que les gens de Kherson ont souffert de la présence russe, ils sont tous partis, enfin il en reste peut-être quelques-uns, mais la grosse majorité est partie. » On a quand même vu, je crois que vous les avez peut-être vus, mais aujourd'hui, des photos de gens cagoulés, attachés à des poteaux électriques dans les rues de Kherson, qu'on a considéré comme des collabos des Russes.
Hein. C'est ça.
Alors, ils avaient l'air vivants sur les photos. Qu'est-ce qui leur arrivera à la nuit? Je ne sais pas. Hein. Bon. Mais ça fait partie de la mise en propagande de l'opération. Hein. Voilà, donc pour Kherson, ne cherchez pas la grande défaite de l'armée russe. L'armée russe s'est retirée sans combat sur des positions qu'elle avait décidé de garder. Bon. Et au passage, je le précise, puisque Habib me tendait la perche en parlant du Dniepr, du fleuve, l'armée russe a dynamité tous les ponts sur le Dniepr. C'est-à-dire que l'avancée de l'armée ukrainienne maintenant va être difficile. Bon. Et si elle avance, eh ben l'artillerie russe l'attend. Voilà. Donc on se retrouve dans le schéma qui a été le même dans la région de Kharkov et dans le nord de la frontière, enfin, dans le nord de la zone des combats, où la Russie se retire, elle laisse venir l'armée ukrainienne, enfin, je dis l'armée ukrainienne, je suis gentil et formaliste, ouais. l'armée au service du gouvernement Zelensky, qui est en partie ukrainienne, voilà, en partie mercenaire, en partie contrôlée par des officiers étrangers, etc. Bon, cette armée-là, si elle avance, elle va se trouver sous un feu nourri et préparé de l'artillerie russe. Donc il ne restera pas grand-chose, c'est-à-dire que la boucherie organisée par Zelensky va continuer, sauf s'ils décident d'arrêter les frais. Alors c'est pour ça que ces grands discours, c'est « je veux toute l'Ukraine, y compris la Crimée », ne valent pas grand-chose par rapport à la situation réelle. Et pour vous dire qu'elle ne va pas grand-chose, je vais faire allusion à un propos, non pas de Vladimir Poutine, parce qu'il ne faut pas faire de poutinolatrie, on ne va pas se livrer à ça, hein, mais je vais vous lire une petite phrase de M. Dmitri Medvedev. Alors je rappelle que M. Dmitri Medvedev a été d'abord Premier ministre quand Poutine était président la première fois. Ensuite, il a pris la présidence pendant un mandat et puis il est redevenu Premier ministre. Et puis, il y a 2 ans, il a perdu le poste de Premier ministre. Il a perdu, oui. Et il a été donc cantonné dans 2 fonctions. Il est vice-président du Conseil national de sécurité et il est président du parti dit du président, donc de Russie unie. Donc il a quand même un rôle politique, mais il n'a pas un rôle gouvernemental. Et ce monsieur Medvedev surprend un peu les observateurs étrangers parce qu'il a été considéré longtemps comme un pro-occidental. Alors on l'appelait là-bas un libéral. Un libéral au point, je le rappelle que quand l'armée russe est intervenue en Géorgie au mois d'août 2008 pour arrêter les menées du gouvernement géorgien contre la province indépendantiste de l'Abkhazie, c'est monsieur donc Medvedev qui était Premier ministre et monsieur Poutine Vladimir était dans les tribunes du stade olympique de Pékin en train de regarder le défilé des délégations étrangères. Donc monsieur Poutine n'était pas tellement en situation d'organiser des combats en Géorgie. Et les États-Unis et leur allié, M. Saakashvili, avaient imaginé que comme M. Poutine serait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions de chef des armées, c'est M. Medvedev qui ferait le boulot. Et ils disaient, lui, il ne fera rien. Bon, pas de chance, l'armée russe est rentrée en Abkhazie et les menées donc géorgiennes se sont arrêtées là. Bon, donc, et à ce moment-là, oui, je finis l'anecdote, parce que M. Bush avait appelé M. Medvedev et a dit, je vous croyais libéral. Bon, ah, c'était... Ouais. Bon, ben, c'était pas tout à fait vrai. Alors, il l'est plus, puisque voilà ce qu'il écrit par rapport à la situation actuelle. Il dit « La Russie seule combat l'OTAN et le monde occidental ». Il l'écrit sur sa chaîne Telegram. Hein. « Nous sommes capables de détruire par nous-mêmes un ennemi puissant ou des alliances d'ennemis », ajoutant que lors des activités militaires, Moscou cherche à préserver la vie de ses soldats et de ses civils. Il écrit « La Russie n'a pas encore utilisé tout son arsenal d'armes et n'a pas frappé toutes les cibles potentielles de l'ennemi. Il y a du temps pour tout ». C'est-à-dire que voilà, vous considérez que l'évacuation de Kherson est une grave défaite militaire, vous risquez d'être surpris. Et il a ajouté, et là, c'est un propos qui est, on pourrait dire, poutinien, lui, c'est la Russie qui forme aujourd'hui le futur ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial équitable sera formé. Il y a une grande certitude dans le propos. Et qui, donc, est un peu le
propos. Il a mûri.
Hein. Oui, il a mûri, effectivement, il a mûri. Parce que moi, je m'étais demandé, c'est vrai que quand j'ai encore dans les yeux la scène où on voit, c'était donc il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, où on voit Poutine annoncer aux journalistes que M. Medvedev est le plus Premier ministre, l'autre, il était plus ou moins ravi. Hein, il n'avait pas un grand sourire, ça n'avait pas l'air d'être... il n'avait pas un préavis, quoi. Bon, et donc on pouvait penser qu'il allait lui en vouloir. En fait, il devient beaucoup plus, à la limite, plus radical que Poutine, plus nationaliste que Poutine. Et là, il dit le message, le nouvel ordre économique mondial sera formé. Alors c'est intéressant de mettre ça en perspective par rapport à la guerre en Ukraine. Parce que si, comme on veut le dire, il y a eu un premier échec de l'armée russe dans les premiers jours de l'attaque au mois de février, si l'armée russe avait détruit Kiev, avait renversé le gouvernement, etc., il ne se serait rien passé au niveau international. Ils auraient été accusés de tous les maux, ils auraient renversé militairement un pays. Là, ce qui se passe, c'est que plus le conflit dure, plus la réflexion du monde, y compris celle de M. Biden, hein, mûrit sur la question de « on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas taper sur la table en disant qu'on est les patrons ». Et il y a toute une série de pays qui regardent la situation en disant « effectivement, quand les États-Unis disent « on veut que ce soit comme ça », ben c'est pas exactement forcément comme ça que ça se passe. Hein. Je pense à beaucoup de pays africains, je pense à beaucoup de pays d'Asie. Hein. Donc, la durée du conflit fait que la maturation de la réflexion politique au niveau mondial a lieu. Et donc, quand il dit « le nouvel ordre mondial équitable sera formé », il dit « notre politique avance ». Et notre politique avance parce qu'on a pris le temps. On n'a pas, comme il dit, on n'a pas cherché à faire un massacre de civils, pas plus qu'un massacre.
Je pense que l'OTAN et l'Amérique pensaient au début qu'il y aurait un massacre.
Voilà.
Alors, ce n'était pas le cas. Et voilà.
Et donc, effectivement, ça les embête bien, parce que là, effectivement, la Russie était en position d'accuser, elle n'avait pas beaucoup de moyens de se défendre. Là, elle dit, non, mes objectifs étaient clairs, je les maintiens, et je vais continuer à aller dans le sens que j'ai décidé, et c'est vous qui allez revoir votre position. C'est pour ça qu'on dit hein, « nouvel ordre mondial », c'est pas rien. Hein. Et ça n'aurait pas eu lieu si, effectivement, dans la dernière semaine de février, l'Ukraine était réduite en cendres. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Alors, il y a des Ukrainiens qui fuient, il y en a beaucoup qui sont partis en Pologne, il y en a qui partent maintenant au Bélarus, il y a donc les 5 millions des 4 provinces intégrées à la Russie qui sont partis, il pourrait y en avoir d'autres.
Oui, mais hein. C'est vrai que ce n'était pas du tout le but recherché par la Russie de détruire l'Ukraine, c'était de chasser les nazis,
Ils n'ont jamais dit autre chose, mais là, maintenant, ils commencent à être entendus. On dit, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et juste quand il y a un mois, ils ont dit, on va évacuer Kherson parce qu'on ne veut pas courir le risque de mettre, je crois qu'il y a 200 000 habitants à Kherson, les mettre dans une catastrophe. Hein, on les retire, ils sont partis. Et donc, après, on suit le mouvement. Et là, on attend l'adversaire sur le Dniepr, mais il aura de la peine à le franchir. Voilà. Bon, ça, c'était pour faire le point. Alors, pour dire, puisque je suis passé par le G20 à Bali, je ne vais pas l'abandonner, encore que les conclusions ne sont pas tirées, puisque le G20 se finit demain. Il s'est allé sur 2 jours. Et donc, l'Indonésie essaye, et je pense qu'elle fait ce qu'il faut, et elle dit ce qu'il faut pour arriver à son but, en disant, le G20, ce n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU. On n'est pas venu là pour parler de l'Ukraine, pour parler des tensions entre les pays. On est là parce qu'il y a un agenda. On avait un programme qui était... Alors, je vous le donne un peu. C'était le redémarrage de l'économie freinée par l'épidémie, bon, tout le monde l'a vécu. L'architecture sanitaire internationale, c'est très intéressant, ça veut dire qu'effectivement, l'Indonésie et le G20 prend un point de vue des pays moins riches, disons des pays moins développés, qui n'est pas le point de vue du G7, en disant ce que l'épidémie de Covid a montré, c'était que l'architecture du système sanitaire mondial n'était pas bonne, c'est-à-dire qu'il y a eu des barrages économiques, politiques, pour qu'il n'y ait pas de vaccins à certains endroits, pour que d'autres puissent pas en acheter, pour que d'autres qui en avaient fabriqué comme les Cubains ne puissent pas les vendre, etc., etc. Donc il y a un vrai problème parce que la position du G20 dans les travaux préparatoires de la réunion qui se tient aujourd'hui et demain, c'était de dire il faut que quand il y a une épidémie mondiale, il y ait une réponse mondiale, qu'il n'y ait pas ceux à qui on donne des médicaments et ceux qu'on laisse mourir. Hein, ça, c'est pas possible. L'humanité est unie. C'est ça aussi, cette idée qui progresse hein, dans le G20. Alors le G20, c'est 85% du PIB mondial, je le rappelle quand même.
Tu as parlé des Nations Unies, je voudrais...
Vas-y.
Je voudrais dire que j'ai entendu parler que la Russie va essayer de faire son Nations Unies. Au lieu que ça
alors,
soit...
Alors, c'est une menace, effectivement. Non, tu fais bien... C'est une menace. C'est-à-dire, ils disent... Voilà, la position de la Russie et de la Chine, c'est très, très clair. Le document pour nous qui est fondamental et qui ne doit pas être touché, c'est la charte des Nations Unies qui a été votée et signée en 1944. C'est donc la charte des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Après, la façon dont fonctionnent aujourd'hui les Nations Unies à New York, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est pas satisfaisant. Il y a des pressions énormes sur les petites délégations, il y a des écoutes téléphoniques, il y a des horreurs qui se passent. Donc ils sont très très clairs là-dessus, et je pense que dire qu'il faudra faire un autre endroit où on se réunit pour parler de la sécurité internationale, c'est une façon de dire à l'ONU, ou vous vous réformez, ou bien on se passera de vous. Alors on en est, voilà.
Où vous appliquez la charte des Nations Unies, même pas besoin de se réformer.
Appliquer la charte, mais appliquez-la correctement.
C'est ça.
La paix, voilà. La paix dans le monde.
Et il y a derrière ça une critique des différents secrétaires généraux, et l'actuel n'échappe pas aux critiques, qui sont trop sensibles. Alors c'est vrai, j'imagine que vivre à New York, avec le FBI sur le dos, les diplomates étrangers qui sont tous suivis, les possibilités de restreindre l'accès aux Nations Unies... Un diplomate étranger, c'est déjà arrivé. On interdit à un Cubain de venir, on interdit à tel ou... C'est tout à fait inadmissible. De là, alors, les États-Unis jouent un jeu dangereux. Alors, ils pensent que dans la mesure où ils contribuent au financement de l'ONU, qu'elle est chez eux, etc., ils ne la perdront jamais. Je pense qu'ils ont tort de réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un beau jour où les autres pays diront le siège des Nations Unies, on le met à un endroit où les Nations Unies ne sont pas espionnées, surveillées. Voilà. C'est bien possible. C'est des processus longs, mais il faut savoir que la réflexion là-dessus est commencée. Donc le G20 se poursuit encore demain sur ses objectifs. Alors il y a la question de l'architecture sanitaire internationale, il y a la question de la digitalisation dans l'économie, parce que là aussi il y a une énorme fracture. Alors le G20, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, mais ça mérite d'être dit. Le G20 a été constitué en 1999. Pourquoi cette date ? Pourquoi cette date ? Parce que l'année d'avant, si vous vous en souvenez, il y a eu une énorme crise financière qui a touché pratiquement presque tous les pays d'Asie, pas tous, mais tout à fait, qui a touché profondément la Russie. Ça a été la première grande crise de l'ère états-unienne, puisqu'on peut considérer, sans caricaturer, qu'à partir de 1991, les États-Unis considèrent qu'ils sont les maîtres du monde et que donc tout fonctionne à leur profit. Bon, il se trouve que ça, le fonctionner à leur profit, ça veut dire aussi que les affaires ne marchent pas fortement, que le capitalisme, qui est toujours un régime qui passe d'une crise à une prochaine crise, bon, la première crise qui se passe donc dans le moment où les États-Unis sont les maîtres du monde, enfin, ou veulent l'être, c'est la crise de 1998. Qui va amener des pays à changer leur monnaie, à dévaluer. Enfin, ça a été très, très sévère. On a oublié depuis. Parce que on en a, nous, un peu moins souffert. La Russie en a beaucoup souffert. Beaucoup de pays d'Asie en ont souffert. Ont dévalué leur monnaie. Bon, ça, ils s'en souviennent. Et donc, le G20, c'est l'apport. Donc, il y a le G7 qui est le prédécesseur du G20. Et le G20, c'est les 13 autres qui sont en gros les émergents, le tiers-monde, le sud, enfin un peu les appellations peuvent varier, mais qui commencent à peser lourd et qui ne veulent pas dépendre des seules décisions de la Banque fédérale des États-Unis et du président des États-Unis et du Pentagone. Donc on retrouve là les grosses économies, le Mexique, l'Arabie saoudite, l'Indonésie et beaucoup d'autres. C'est, je vous dis, 85% du PIB mondial. Donc ça pèse lourd. Mais il faut se rappeler donc les conditions de l'apparition de ce groupe, hein, qui est une espèce de revendication des pays dits du Sud, pour faire simple, parce que c'est une vieille appellation, pour ne pas être soumis totalement à la volonté du G7 et en pratique à la volonté des États-Unis. C'est tout. Et depuis, le G20 fonctionne. C'est-à-dire, il travaille, il prépare ses réunions, parce que là, ce à quoi on assiste à Bali, c'est la réunion des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, mais il y a eu des réunions des ministres des Finances, des réunions des ministres des Affaires étrangères. Ils ont travaillé sur les dossiers dont je vous parle. Ils ont travaillé un dossier sur la transition écologique, parce qu'ils ont un rôle à y jouer, tout en sachant que c'est les pays du G7 qui polluent le plus la planète, on le sait ça aussi. Bon, tout ça fait un travail où, effectivement, le G7 est un peu sous observation. C'est-à-dire, on lui dit, on n'accepte pas tout de vous, n'importe quel propos, n'importe quelle campagne de propagande, et nous, on pèse quand même un bon poids de l'économie mondiale. Avec toutes nos différences. Hein, vous mélangez l'Arabie Saoudite, la Turquie, ça ne se passe pas tout seul. Vous mettez le Mexique au milieu, c'est quand même autre chose. Bon, mais tout ça joue. Vous avez le Brésil, vous avez plein de gens importants. Donc ce G7, il avait travaillé, il était prêt sur les thèmes que je viens d'énoncer. Et la position pour l'instant du gouvernement et du président indonésien et des diplomates indonésiens, c'est de dire nous sommes là sur les sujets que nous avons mis à l'ordre du jour. On n'est pas là pour parler de la guerre d'Ukraine. Ce n'est pas là où ça se joue. D'ailleurs, ils le savent d'autant plus que ça se joue à Ankara entre le chef de la CIA et le chef des renseignements russes. Bon. Et donc, je pense qu'ils vont tenir le coup, c'est-à-dire dire on avait un agenda, on remplit l'agenda, on travaille, on prend des décisions pour l'avenir. C'est tout à fait clair. La réunion, alors le rendez-vous entre Biden et Xi Jinping a été un peu un prélude à la réunion du G20, mais voilà, ils se voyaient. Alors on avait attendu, voilà, au dernier moment, finalement, Poutine a dit « je viens pas, c'est pas la peine que je vienne hein. ». Il a envoyé Lavrov, et je pense... Alors il y a eu un gag, parce qu'au cours d'une des cérémonies d'ouverture du G20, tout le monde s'est mis en tenue indonésienne. Bon, c'était très bien. Alors, de très jolis uniformes. On a vu Lavrov dans une très très belle toge verte, pâle, etc. Et tout d'un coup, on reçoit un communiqué donc, de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui dit « Je suis très surprise d'apprendre que M. Lavrov était hospitalisé à Mali. Il est en très bonne santé. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. »
Ouais, c'est sûr.
Voilà où on en est. Voilà, on est
et désolé. Macron, il n'a pas mis de toge verte.
J'ai pas vu de photo. Non. J'ai pas vu de photo. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui aiment.
Ouais, je l'ai vu avec
avec qui il parlait. Il parlait avec le président chinois. Oui, parce que Macron, voilà. Il ne parle pas au deuxième couteau. Macron, il parle qu'avec des gens importants, on le sait. Ah bon. Et donc, bon, je n'ai pas vu de photo Macron en tenue indonésienne,
non,
mais peut-être
non plus.
Peut-être ils nous ont caché ça, on verra. Voilà pour ce G20. Donc je pense qu'effectivement, le G20 et que la présidence indonésienne est ferme. Ils vont s'en tenir aux travaux préparatoires qui ont été faits. Ils vont faire un communiqué commun. Alors, il y aura peut-être un problème dans le communiqué commun, parce qu'on sent que la position du G7, ça va être de dire il faut que dans le communiqué commun, il y ait une condamnation de la Russie. Et je pense que les autres diront non, c'est pas le lieu. Ouais. C'est pas le lieu. Vous pouvez les condamner tous les jours.
Ils ont essayé.
Ah oui, ils ont essayé. Ils essayeront forcément. Ah. Mais je pense qu'ils auront un refus de la part de l'Indonésie, qui sera ferme, et c'est très bien. Et puis des autres qui diront non, non. Il y a des endroits pour débattre de ça. On sait d'ailleurs que vous vous parlez hein, dans les coulisses. Donc continuez à parler. Le G20, c'est pas fait pour ça. Hein. On se tient au courant, vous inquiétez pas. Voilà, pour en dire un petit peu plus. Alors, qui s'est signalé ? Bon, ben, monsieur le nouveau Premier ministre britannique a été tout à fait fidèle à ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire il faut laisser l'Ukraine aux Ukrainiens. Donc il a fait du Zelensky à sa façon, mais on n'a pas de surprise de ce côté-là. Et puis, je voulais parler... Alors, on va passer une petite musique... qui est un morceau de Emir Kusturica, vous connaissez le musicien serbe, qui parle de la propagande à sa façon. Bon, c'est en serbe, mais la musique est très, très tonique et ça mérite de l'entendre. Thank you.
die Spanien am Schallendamm. Dort böse Hochwürde, ja, 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 ja. Dort böse Hochwürde, ja, ja, ja. Und jeder Kind, der Premiere, ja, ja, ja. Und geschlüpft, ja, 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 ja. Kürammer im Paratol, war der Wille, Diktator, der Diktator. Kürammer im Paratol, war der Wille, Diktator, der Diktator. Hey, hey, wir uns dann durch die Säule, yeah. Hey, hey, wir uns dann durch die Säule, yeah. Paratol, um da zu tun.
C'était pas Emir Kusturica, c'était un groupe turc, non mais c'est pas grave, parce que je voulais en parler aussi. Groupe Yorum, qui est un groupe donc militant, donc de chanteurs, un orchestre turc, qui a beaucoup, beaucoup souffert de la semi-dictature de Erdogan, hein, au point qu'un certain nombre de ses militants sont morts de grève de la faim en prison. Et c'était l'occasion d'évoquer donc la situation en Turquie où le parti l'AKP risque de s'affaiblir aux élections de l'année prochaine, mais où la répression est toujours si féroce. Alors l'attentat qui a eu lieu à Istanbul. Ce week-end là est un attentat qui peut préparer la création d'une tension politique pour permettre au gouvernement et à l'équipe Erdogan de renforcer son pouvoir, hein. C'est un classique de la provocation. Ce n'est pas le premier qu'ils organisent. Ils sont tout à fait capables de le faire. Hein, parce qu'il y a, dans l'ombre des services officiels, il y a aussi une milice fasciste qu'on appelle les loups gris, qui peut être actionnée par-dessous par les services secrets turcs. Et donc, effectivement, on peut pas l'exclure. J'accuse pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais dans la fragilité relative d'Erdogan dans la situation politique interne, on peut imaginer que c'est une façon de renforcer son contrôle sur le pays. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce groupe qui a payé très très cher son engagement militant, non violent, enfin uniquement dans la pratique, dans les spectacles, dans les concerts qui avaient un succès fou, dans lesquels ils chantaient des chansons militantes sur l'histoire de la Turquie, l'histoire des libertés en Turquie, etc. Ça lui a coûté très 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 cher. Bon, donc un coup de chapeau au groupe Yorum, ça s'appelle. Yorum. Et je voulais vous parler très rapidement des 8 milliards, parce que c'était aujourd'hui, là, on en a parlé mardi dernier, c'était aujourd'hui où on disait officiellement il y a 8 milliards d'habitants. Alors, simplement, il s'agit d'une opération de communication. Vous doutez bien qu'il y a des pays où l'état civil est organisé de façon très pointue, les informations sont centralisées dans la journée, etc. Il y a des pays où l'état civil il est un peu chancelant, donc on est dans les estimations, l'ordre de grandeur.
Oui. Je pense que sur l'attentat d'Istanbul,
oui.
Je voudrais juste ajouter quelque
vas-y,
chose.
Vas-y.
Les Américains ont envoyé des condoléances. Elle a été refusée par le ministre, par les gens officiels de la Turquie.
Voilà.
Et il y a de l'embrouille entre Américains et...
Voilà. Alors, ça peut être une façon pour l'équipe d'Erdogan de dire c'est les Américains qui ont commandité l'attentat.
C'est ça.
Donc je ne veux, veux pas de l'hypocrisie de leur... Enfin, il est capable aussi d'être hypocrite, lui. Donc, voilà. Mais non, mais tu fais bien de le soulever. Donc les 8 milliards, bon, c'était aujourd'hui la date symbolique choisie par l'ONU. Mais évidemment, le compte à l'unité près n'est évidemment pas possible. Hein. L'ordre de grandeur est juste. On sait surtout que... l'augmentation est forte, mais on sait aussi puisque le suivi de la démographie mondiale est fait, même si on est à un million près, mais de toute façon les ordres de grandeur sont justes, hein, on sait aussi que la période des années disons, 50 à 70 a été une période de très très forte croissance et qu'on rentre maintenant dans une période de relatif ralentissement.
C'est ça.
Hein, c'est très important de le souligner. C'est-à-dire que probablement, et les démographes alors font des projections pour voir un peu où on va, ils disent que probablement, on irait vers un maximum de vers 10 milliards dans une vingtaine d'années et qu'ensuite, il y aurait une stabilisation, voire une légère décroissance.
C'est
tout à fait possible. Le cas le plus intéressant à regarder est celui de la Chine qui est en train... Alors, on dit la Chine vieillit. Mais tout le monde vieillit. Mais la Chine sait... J'en ai parlé à propos de la politique de l'enfant unique. La Chine sait que de toute façon, à ajouter 4 enfants par famille tout le temps, on n'arrive finalement plus à nourrir personne. Hein. Et donc, à un moment donné, il faut ralentir. Donc, ça se passe parce que la Chine vieillit en âge moyen. D'autres pays vont suivre. Nous, on y est déjà. D'autres, mais les États-Unis aussi, etc. Et il ne restera en retard relatif, ça ne veut rien dire, mais il ne restera avec des taux de croissance extrêmement forts que les pays les moins éduqués, en particulier sur le sol africain. Pas tous. Hein. Je parle des pays où pratiquement les femmes ne vont pas à l'école. Hein. C'est là que se fait le changement. Le changement, clairement, pour les démographes, il se fait à partir du moment où les filles vont à l'école secondaire. Hein, parce qu'au primaire, beaucoup de gens y vont, ça ne suffit pas. Mais à partir du moment où elles vont à l'école secondaire, hein, dans les années où elles grandissent, à ce moment-là, le ralentissement démographique a lieu presque, j'allais dire, naturellement. Oui, c'est lié. C'est très, très lié. Bon. Donc, voilà, les 8 milliards, laissons-les pour ceux qui sont.
Oui.
Simplement un effet d'annonce pour bien faire comprendre qu'effectivement, ça a beaucoup augmenté après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et on a aussi un phénomène de vieillissement des populations qui fait que là où il y a des soins suffisants, la population peut vieillir plus. Il faut savoir que dans des périodes ayant précédé la révolution industrielle, sur 5 enfants mis au monde, il y en avait un qui survivait après 5 ans. C'est ça qui... La différence. À partir du moment où vous les soignez, même si le niveau sanitaire est très très faible, une femme, je veux accuser aucun pays d'Afrique, mais qui a 5 enfants et les 5 enfants survivent, à ce moment-là, le drame démographique, il est là. Donc c'est ça qui se régule. Mais enfin, au niveau des grandes masses, c'est pas ces pays-là
qui... À mon époque, c'était 50% qui vivaient.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, oui. Donc on est sorti de ça.
À mon époque, c'est-à-dire en 40. Voilà.
Voilà, oui. Voilà. Et puis, alors, derrière ça, pourquoi ça ralentit ? Pourquoi ça pas ralentit ? Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a ce concept qui est utilisé par certains sur ce qu'on appelle le jour du dépassement. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y a aujourd'hui, je crois que c'est une ONG qui fait ça, qui dit à longueur d'année, tous les jours, voilà, on a à cette date-là de l'année, la planète, l'humanité a consommé plus de ressources naturelles qu'il y en a de disponibles, c'est-à-dire on a des mois en déficit, c'est-à-dire on a pris plus que ce qu'on pourra rendre, en gros. C'est ça l'idée. Bon. Alors ça, c'est très joli, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Alors on fait des COP numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis on s'aperçoit que les COP ne sont pas... Enfin, les résultats des COP ne sont pas respectés ou pas bien, etc. Bon, et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça veut dire qu'on n'est pas allé au cœur du système. C'est-à-dire que quand on a appelé... Alors on appelle cette période où c'est le travail humain qui est en train d'attaquer la nature. Et vous savez que la nature, on en a besoin, hein, parce qu'il y a de l'oxygène, là, de l'eau, il y a des tas de trucs... Hein. Bon, si c'est l'humanité qui attaque la nature, on dit c'est l'anthropocène. Alors je m'arrête sur le terme, hein, ça veut dire c'est la période historique, et même historique au sens de la géologie, où c'est l'homme, Anthropos, qui est responsable de ce qui se passe. Bon. Et là-dessus, je conteste cette appellation, parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas chacun, ce n'est pas vous, moi, mon voisin, le père que je crois dans la rue, qui est pour quelque chose. Hein. Ni vous ni moi ne sommes responsables de la qualité des produits que nous consommons, des émissions de CO2 qui ont été nécessaires pour le fabriquer. On ne sait même pas si on ne pouvait pas avoir quelque chose qui soit moins polluant, mais de toute façon, ce n'est pas dans les magasins. Enfin, donc on est totalement dépendant d'un système économique où nous ne décidons rien du tout. Hein. Donc, on est face à une industrie qui produit tout ce qu'il y a dans les magasins, et ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'il y a dans les magasins. Bon. Donc, c'est pour ça que je récuse le terme d'anthropocène. Ce n'est pas l'espèce humaine qui a décidé de se suicider toute seule. C'est les gens qui, aujourd'hui, conduisent les affaires de l'espèce humaine qui ont une pratique qui fait qu'ils ne se préoccupent pas, parce que leur problème, ce n'est pas celui de la préservation de la planète, contrairement à ce qu'ils disent, ils se produisent de gagner de l'argent, à faire du profit. Donc, moi, j'appelle ça, cette période, le capitalocène. Ça,
merci.
Oui. Voilà. C'est, ça, c'est très, très clair. Hein. Parce que c'est cet appât du gain, c'est ça, qui fait qu'ils mettent sur le marché quelque chose qui va se vendre. Alors, ça va être, ils vont faire ce qu'il faut comme campagne de publicité et tout. Mais ils ne vous expliqueront pas. Alors, ils commencent à expliquer. Ils font un peu des produits verts maintenant, mais ils continuent à faire les autres, etc. Hein. Donc, vous n'avez pas le choix de la quantité de polluants émis pour voir ce qu'il y a dans votre assiette ou dans votre salle à manger ou dans vos meubles. Bon. Donc les choix sont faits par ceux qui gouvernent la machine économique, ce sont les groupes capitalistes. Ouais. Et il n'y a que leur enrichissement le plus élevé possible qui est d'ici.
Ce qu'il faut voir, c'est sur les étiquettes, on le voit très bien.
Mais bien sûr, bien sûr.
Tous les colorants, les pesticides.
Bien sûr.
C'est des chiffres, on ne sait
voilà,
pas.
Voilà, exactement.
C'est pas très bien.
Voilà, donc je voulais en parler à propos de ces 8 milliards et l'anthropocène, mais voilà, on veut inculquer une responsabilité individuelle à des gens qui, comme vous et moi, n'ont aucune capacité d'influence sur le système. Alors, oui, alors on va vous dire, il y a des gens, des groupes écolos qui manifestent, etc. Ils manifestent, mais enfin, ça ne change pas profondément
voilà,
la qualité.
Voilà, les groupes écolos et aussi les personnes qui ont les moyens de manger du bio oui. 100%, etc.
Voilà.
Mais oui, parce que souvent, on tape sur les gens parce qu'ils mangent, ce qu'ils peuvent, ils nourrissent leurs enfants comme ils peuvent.
Voilà, ce qui n'est pas cher, et pas forcément bon, etc. Sans parler du bio qui est fabriqué en Argentine et qui fait 10 000 km pour arriver dans la... Oui, il y a des régions entières d'Argentine où on fait du bio. Hein. Mais c'est du bio, pas pour les Argentins. Bon. Donc ça, c'est un débat qu'on aura peut-être une autre
c'est
fois.
C'est très...
Alors, je regarde un petit peu l'heure. Donc, c'était pour reparler de ces 8 milliards en disant, mettez-vous bien dans l'idée que c'était une campagne intelligente pour montrer le niveau où nous sommes, mais qu'effectivement, on ne sait absolument pas, peut-être à plusieurs mois après, si c'est passé hier ou avant-hier, ou si ça passera pour l'année prochaine. Bon. Mais c'est intéressant de faire réfléchir. C'est ce qui m'a amené à le faire devant vous. Bon. Alors, je vais vous parler de la réunion qui s'est tenue avant le G20. Ça, on en a beaucoup moins parlé, mais elle est très, très intéressante. Parce que vous savez qu'il existe, on a consacré une émission là-dessus, une association des pays de l'Asie du Sud-Est, qui s'appelle la SEAN, qui commence à peser son poids, puisque c'est quand même 700 millions de personnes, qui est donc dont le poids lourd est l'Indonésie, mais il y a donc les Philippines, la Malaisie, le Cambodge, enfin tous ces pays-là, le Vietnam, etc. Et donc, il y avait une réunion qui était prévue, un sommet de la SEAN qui était prévu la semaine précédant le G20, et normalement, ce qui a expliqué que ce soit l'Indonésie qui préside le G20, c'est qu'ils devaient aussi présider les deux séances, la SEAN et le G20, et ils ont demandé à ce que leur tour soit passé pour ne pas avoir deux affaires si lourdes sur les bras en même temps. Et donc, c'est l'Inde qui a pris la place de l'Indonésie pour organiser le sommet de la SEAN.
On n'en a pas parlé beaucoup.
On n'en a pas parlé beaucoup, je veux dire, à mon avis, parce que ça dérange. Ça dérange parce qu'ils commencent à peser lourd. Hein, donc 700 millions de personnes, c'est quand même pas mal. Et puis, alors c'est là qu'il y a une innovation sur laquelle je veux m'arrêter. Ils avaient des invités, les pays de la SEAN. Et tenez-vous bien, il y avait 3 invités au plus haut niveau qui étaient là à cette réunion de la SEAN qui a eu lieu au Cambodge, sous la présidence du Premier ministre cambodgien. Ces 3 invités, c'était le Japon, avec son Premier ministre en titre, M. Kishida, la Corée du Sud avec son président, qui était lui-même présent, M. Yoon Suk-yeol, et la Chine, le Premier ministre chinois était là. Donc si vous ajoutez, et ils ont appelé ça APT, donc ASEAN, plus 3. Hein, ça pèse un poids considérable. Quand vous rajoutez à ces 700 millions la Chine, le Japon et la Corée du Sud, vous avez une puissance économique formidable. Vous avez l'Asie qui pèse très très lourd sur la scène.
Le Japon, troisième mondial.
Mais oui.
Mais j'aurais pensé que la Chine était déjà dans la...
Non. Non, elle ne considère pas comme l'Asie du Sud-Est. C'est l'extrême-orient de
l'extrême,
la Chine.
Oui. Pardon. Hein?
Mm. Oui. Et puis, ils ne veulent pas de puissance nucléaire dans la SEAN.
Donc, non. Hein?
Mais là, donc, le Premier ministre y était. Mm-hmm. Le Premier ministre chinois y était. Et donc, de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé, mais, tenez-vous bien, et je reviens à cette question de l'architecture sanitaire mondiale. Ils ont dit, ce qui s'est passé pour le Covid, ce n'est pas bien. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des vaccins fabriqués ici et là, ça a mal circulé, il y a des pays qui n'en ont pas eu assez, enfin, chacun a fait un peu sa politique sanitaire. Quelles décisions ils ont prises? Je vous la cite parce qu'elle est très très intéressante. Il faut que nous 10, hein, donc la SEAN plus les 3 là, on ait un endroit où il y a un stock de médicaments communs. Un stock de médicaments communs. Et le jour où il y en a un d'entre nous qui a des problèmes sanitaires... Hein, on n'ira pas voir qu'il soit boycotté par tel labo, machin, chose et tout. On aura un stock commun. Et donc, celui qui aura des problèmes, il viendra frapper à la porte du stock commun et on lui donnera ce dont il a besoin. Ça, c'est une avancée extrêmement intéressante. Hein, parce qu'elle porte sur les problèmes de la vie des humains dans un ensemble vaste, avec des pays qui ont des capacités industrielles, qui font des produits pharmaceutiques, etc. Et qui disent, c'est une façon d'afficher, nous faisons des produits pharmaceutiques, c'est pas que pour nous. Et donc là, il y a un stock commun, ou même un petit pays, un Cambodge avec ses 6 millions d'habitants, s'il a un problème, il viendra frapper à la porte et il aura tout de suite les médicaments. Et il n'y aura pas de chantage politique. Ce sera l'association qui dira, vous avez besoin de ça, on l'a en stock, on vous le donne. Hein. Il n'y aura pas de relation, on vous le donne si vous êtes gentil, etc. Pas du tout. Hein. Ben je trouve que c'est une énorme avancée. C'est une énorme avancée, discrète, mais qui est tout à fait à l'ordre du jour.
Alors, on a eu un exemple terrible, c'est le Covid. Hein.
Mais oui, c'est là-dessus qu'ils ont... C'est là-dessus
qu'ils ont de là qu'ils sont partis.
Oui, c'est de là qu'ils sont partis, bien sûr. Ouais. Ils ont vu qu'il y avait des pays qui avaient des vaccins qui ne pouvaient pas les vendre, on leur a refusé, d'autres qui n'avaient pas, etc. Bon, et je termine par un petit mot sur Israël. Un petit mot sur Israël. Alors, pour simplement dire que, il est très probable que Netanyahou fasse un gouvernement avec l'extrême droite. Hein. Bon, alors, il était déjà assez près de l'extrême droite et il avait déjà dans sa majorité deux groupes d'extrême droite. Mais il a le plus dur qui va s'intégrer probablement au gouvernement.
C'est le Daesh israélien.
Ouais, c'est le Daesh israélien. Mais, je voulais m'arrêter sur une note beaucoup plus souriante, c'est-à-dire que l'Assemblée générale de l'ONU s'est penchée sur la question d'Israël et de l'État d'Israël et de ses limites, de sa superficie, et elle a demandé à ce que la Cour internationale de justice soit saisie pour qu'il soit clairement établi que l'État d'Israël a envahi le territoire de la Palestine qui a été défini par l'ONU en 1947.
C'est ça.
C'est très, très. Alors là, on est au fond, au cœur du problème. On est au cœur du problème. Ça arrête, si. Alors, les avis, la Cour internationale de justice, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale, ne peut donner que des avis sur des questions, des litiges frontaliers, etc. Alors, ces avis peuvent être respectés par les gouvernants ou ne pas l'être. Mais un avis de la Cour internationale de justice qui ne peut pas être autre chose qu'effectivement, il y a un territoire qui a été donné à la Palestine et il est à elle, et point à la ligne, et l'Israël n'a rien à y faire, hein, ça n'est qu'un avis consultatif, mais c'est une arme politique et diplomatique de très très grand niveau si effectivement... Ça, on arrive à cette décision-là. Alors, la CIJ, donc, qui siège aussi à l'AE, d'où la confusion souvent avec la Cour pénale internationale, est saisie. Et donc, elle va délibérer. Et je pense qu'elle ne peut pas faire autre chose, puisque c'est l'ONU qui a défini les deux territoires en 1947. Hein, donc, elle va pouvoir dire, bah, effectivement, Israël empiète sur le territoire des Palestiniens, point à la ligne, c'est tout. Et à partir de là, la Palestine dispose d'un...
C'est-à-dire, en parlant de la Cisjordanie et la bande de Gaza, par
tout,
rapport...
Tout, le territoire palestinien, c'est là. Ouais, c'est tout, et c'est pas ailleurs. Et donc, tout ce que font les Israéliens doit être rasé. Hein, toutes les colonies, l'envahissement du plateau, de la mosquée, etc. Tout ça, ça ne compte pas. Et Jérusalem, mais tout ça, ça compte pas. C'est terminé si la CIJ dit, ben voilà, les Palestiniens, là, ils sont chez eux, là, c'est Israël. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va laisser la place à nos amis musiciens. Et puis, on se retrouvera, évidemment, mardi prochain. Merci, Sidi.
Merci.